querer, tontos.
Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Me Load. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison pleine d'aventures métal. Une nouvelle saison qui commence aujourd'hui après quelques semaines de congé. Alors, ce qu'on va faire pour cette première, c'est un petit tour d'horizon de ce qui est arrivé dans les bacs. Il y a eu quelques pépites qui sont parues durant le mois qui vient de s'écouler. Et puis, ça un petit peu pour attendre aussi les grosses sorties de septembre, parce qu'il y a quelques gros morceaux qui nous attendent, mais c'est pas pour tout de suite. Et ça tombe bien parce que des gros morceaux, il y en a eu quelques-uns entre la fin juillet et maintenant. Donc aujourd'hui on va aller se promener un peu à travers tout ça. On aura du thrash metal, on aura du hard rock, on aura du heavy metal. Voilà, ça va être assez coloré en termes d'ambiance metal. Vous allez voir tout ça dans l'heure qui va s'écouler. Bien évidemment, on conclura ce premier Check Me Load de la saison par notre rubrique Sortez Cover, celle qui nous emmène chaque semaine et bien sûr les traces d'une reprise. Alors on prend une chanson, qu'elle soit issue de n'importe quel répertoire, ça peut être une chanson déjà métal au départ ou pas du tout, hein. Ça peut être de la pop musique, c'est très souvent le cas, ça peut être du reggae, ça peut être ce que vous voulez. La seule condition, c'est qu'elle soit revue, corrigée dans une esthétique métal quelconque. Et vous allez voir, pour cette émission du jour de ce 4 septembre, je vous ai dégoté une petite nouveauté qui est parue dans le courant du mois d'août. Écoutez, je pense qu'il est temps de lancer les hostilités et l'événement qui aura marqué cette fin de vacances d'été et aussi un petit peu adouci la rentrée, il faut le dire, c'est la sortie extrêmement attendue de S&M2, le second live symphonique de Metallica, qui est arrivé dans les bacs il y a tout juste une semaine. C'était vendredi dernier, le 28 août. Alors Metallica, faut-il encore le rappeler, c'est un des groupes qui a forgé son thrash metal au tout début des années 80. S'il représente le son de la baie de San Francisco, où il est basé depuis bien longtemps, c'est en fait à Los Angeles que le combo va naître en 1981. Le line-up va se stabiliser en 1983 et à ce moment-là, Metallica se compose de Kirk Hammett au chant à la guitare, de Lars Ulrich à la batterie, de Cliff Burton à la basse et je suis en train de vous dire des bêtises en fait. Kirk Hammett, c'est bien évidemment le guitariste de Metallica, c'est James Hetfield qui est au chant. N'importe quoi, ça commence très très fort cette nouvelle saison. J'espère que je vais pas vous en faire des énormes comme ça chaque semaine. C'est bel et bien Hetfield qui est au chant et à la guitare, et c'est Kirk Hammett qui est à la guitare, on va dire entre guillemets, solo. En tout cas, Kirk Hammett, là où je voulais en venir, c'est que lui, il n'est pas arrivé tout de suite. Avant lui, il y a eu un certain Dave Mustaine, qui était donc à ce poste de guitariste, et qui va assez vite se faire virer parce que je crois qu'il avait un ego assez important, et que tous les membres de Metallica à l'époque avaient aussi un ego assez développé, donc ça a vite été au clash. Du coup, Dave Mustaine, de colère, lui va former son propre groupe, qui va s'appeler Megadeth, une formation qui est devenue extrêmement connue, un poil moins que Metallica, mais quand même, hein, c'est une formation phare de l'histoire du thrash, Megadeth. D'ailleurs, avec Anthrax, Slayer et Metallica, ça constitue ce qu'on appelle le Big Four of Thrash. Alors, depuis 83, Metallica, du coup, a connu que deux changements de line-up. Il y a eu, et c'est que des changements au niveau de la basse, hein, puisque le premier bassiste, Cliff Burton, malheureusement, il va décéder de façon tragique en 86. Donc il va être remplacé à ce moment-là par Jason Newsted, qui va rester 15 ans jusqu'en 2001, et depuis il a cédé sa place à l'excellent Robert Trujillo, que moi j'adore, qu'on avait vu auparavant, notamment dans les rangs de Suicidal Tendencies. Robert Trujillo, c'est un monstre, quoi, c'est un monstre à la basse, il joue tout au doigt, bah, un peu comme faisait à l'époque Cliff Burton. Newsted jouait au Mediator, mais alors Trujillo, il avale tout au doigt, et ça c'est vraiment une prouesse quand on joue du Metallica. Et puis bah, Metallica, c'est également des albums totalement cultes, hein. Ça va être le cas dès le premier, qui s'appelle Kill 'Em All, qui arrive en 83, qui va marquer le début de la légende des Four Horsemen. Alors il y aura ensuite le tout aussi marquant Ride the Lightning en 84, avec sa célèbre pochette avec la chaise électrique. Il y aura après le génial Master of Puppets en 86, l'excellent And Justice for All en 88, et puis le sublime Black Album en 91, qui marque en quelque sorte l'apothéose de Metallica, qui va ensuite entrer dans une nouvelle ère, alors que certains vont trouver moins glorieuse. Avec ça va commencer avec l'album Load en 96, et puis se poursuivre avec Reload en 97, qui devait être au départ un double album, mais voilà, qui avait finalement été divisé en deux. Ces deux albums vont beaucoup décevoir à leur sortie, et leur successeur, qui s'appelle Saint Anger, qui arrive en 2003, va recevoir lui aussi un accueil quand même assez mitigé. On va lui reprocher notamment son son qui est un peu cru, un peu crade, et puis qui en même temps lorgne un peu vers le nu metal très à la mode à l'époque. Mais bon, voilà, ça va pas vraiment conquérir les fans de la première heure. Faudra attendre vraiment 2008 avec la sortie de Death Magnetic pour retrouver le feu sacré de Metallica, qui nous a ensuite fait patienter pendant 8 ans, hein, avant de dégainer le très réussi Hardwired to Self-Destruct. Ça, c'était en 2016. Le disque qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cet imposant S&AIM 2, qui a été enregistré en septembre 2019 en compagnie de l'Orchestre Symphonique de San Francisco, s'il vous plaît. Alors, un exercice auquel le combo s'était déjà livré assez brillamment il y a 20 ans, hein, comme en témoigne le live qui était sorti à l'époque, qui s'appelait S&AIM. Il était sorti en 99. Du coup, c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question de savoir si un deuxième live symphonique, c'était quelque chose de bien utile. D'autant que si à l'époque la prouesse était exceptionnelle en 99, aujourd'hui elle l'est de moins en moins. Il y a beaucoup de groupes qui ont emboîté le pas et qui ont fait la même chose. Bon, sauf qu'ici c'est Metallica quand même dont il est question. Un géant parmi les géants de la scène métal, et ça change quand même pas mal la donne. Alors certes, il y a une grande partie des morceaux qui figuraient déjà sur le premier S&M, mais on trouve quand même quelques titres inédits en version symphonique, parce que tout simplement, ils sont extraits des trois derniers albums du combo qui étaient sortis ensuite. Et puis aussi, ce S&M 2, c'est également l'occasion d'apprécier le talent gigantesque de Robert Trujillo, qui n'avait pas participé à la première édition parce que c'était encore Jason Newsted. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que le résultat est quand même à la hauteur du groupe, hein. C'est totalement fou, c'est totalement épique. Moi, perso, j'ai bien kiffé de l'écouter, ce S&M 2. On va en écouter un extrait. Je vous laisserai vous faire votre appréciation. Alors, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait prendre un des morceaux qui n'était pas paru sur la première édition. J'ai choisi un morceau extrait du dernier album en date de Metallica, de Hardwired, c'est Moss Into the Flame, mais qui est ici interprété version symphonique, donc par Metallica, mais en featuring avec l'Orchestre Symphonique de San Francisco. C'est tout de suite, c'est sur Back FM. Metallica en version symphonique sur Bac FM 106.1 dans l'émission Check Me Load, votre émission métal. Et vous venez d'écouter Moth Into the Flame, un extrait donc de S&M 2 qui est paru le 28 août. Gros album donc de Metallica, accompagné pour ce live qui a eu lieu en septembre il y a un an, donc de l'orchestre symphonique de San Francisco. Et c'est bien James Hetfield que vous avez entendu chanter et non pas Kirk Hammett, dont on entend rarement la voix quand même, il faut bien la avouer. Autre gros morceau à être arrivé en plein cœur de l'été, ça c'était début août, et ben c'est le nouvel album de Deep Purple qui s'appelle Whoosh, qui est arrivé le 7 août. Donc Deep Purple, quelle grande carrière que ce groupe mythique, groupe qui est né à Hertford en 68. Alors à l'instar de ses compatriotes de Led Zeppelin et de Black Sabbath, Deep Purple est considéré comme étant un des pères fondateurs du hard rock et du heavy metal. Vous voyez, on avait les pères fondateurs du thrash il y a quelques instants, là on a ceux du hard rock, du heavy metal. Donc si Deep Purple n'avait pas été là, je pense que Metallica n'aurait pas été là aussi. Et au cours de ses plus de 50 ans d'existence, Deep Purple va connaître de nombreuses incarnations que l'on appelle des marques. Alors vous avez Mark 1, Mark 2, jusqu'à l'actuel Mark 7. Et la plus emblématique de ces marques, c'est la numéro 2 qui a sévi de 69 à 73 et puis qui a encore sévi un petit peu après de 84 à 89 et qui se composait donc de Ian Gillan au chant, de Richie Blackmore à la guitare, de Roger Glover à la basse, de John Lord au clavier et de Ian Paice à la batterie. Quant à l'actuelle Mark 7 qui officie elle depuis 2002, eh bien elle se compose, alors on y retrouve le chanteur Ian Gillan et le bassiste Roger Glover, on y retrouve aussi le batteur Ian Paice. Ce qui change, c'est du côté de la guitare et du clavier, puisque le guitariste c'est désormais Steve Morse, c'est le petit jeune de la bande qui a 66 ans, et le clavier, eh bien c'est Don Airey qui remplace John Lord, qui malheureusement a disparu il y a quelques années. Notons enfin que parmi les illustres membres qui sont passés en les rangs de Deep Purple, eh bien on retrouve par exemple le chanteur bassiste Glenn Hughes ou encore le chanteur David Coverdale. Alors lui, ensuite il a fondé le groupe Whitesnake. Deep Purple donc, c'est du hard rock, c'est du hard rock qui est particulièrement influencé par la musique blues, mais également par la scène rock progressive et psychédélique qui est née dans la fin des années 60. Et Deep Purple, en fait, il va se distinguer des autres formations de l'époque, par une touche presque baroque qui est apportée à la fois par le jeu de guitare assez unique de Richie Blackmore et puis bien sûr par cet orgamone du génial John Lord. Et c'est son quatrième album, celui qui s'appelle In Rocks, qui a une pochette très célèbre qui est parue en 70, qui va marquer le début de la gloire pour Deep Purple, qui va ensuite enchaîner les succès jusqu'au début des années 80. Alors parmi ses autres albums cultes, on peut citer Fireball en 71, Machine Head en 72 ou encore ce mythique live qui s'appelle Mad in Japan, qui est sorti en 72 également. Et puis quant à ces morceaux phares, ils sont extrêmement nombreux et ils restent à ce jour totalement incontournables, du cultissime riff de Smoke on the Water que tous les apprentis guitaristes vont massacrer à un moment donné, jusqu'à la balade Child in Time qui a été utilisée il y a pas si longtemps pour une campagne publicitaire de parfum. L'héritage musical de Deep Purple, il est partout, il fait définitivement partie de notre culture populaire. Donc, ce qui fait que la sortie d'un nouvel opus de la formation, c'est toujours un véritable événement, et l'arrivée de Whoosh début août a pas fait exception, surtout que le mythique combo qui affiche une moyenne d'âge quand même supérieure à 70 ans semble avoir retrouvé depuis quelques années une sacrée pêche. Cette sacrée pêche, ils l'ont retrouvée depuis qu'ils collaborent avec le producteur Bob Ezrin. Alors Whoosh, c'est en effet le troisième album qui a été produit par Ezrin, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Deep Purple, eh bien, n'en a rien perdu, ni de son sens inné de la mélodie, ni de son sens de l'envie d'avancer, puisque si on retrouve ce qui a fait un peu sa gloire, ça n'empêche pas le groupe, à plus de 70 ans, d'explorer avec Whoosh des territoires plus progressif que d'habitude, et en plus ça lui va extrêmement bien. Alors justement, c'est peut-être parce que Deep Purple n'a absolument plus rien à prouver aujourd'hui et qu'il paraît aussi libre finalement et aussi inspiré. Alors c'est vrai qu'il y a forcément des rabat-joie qui vont regretter la grande époque de Ritchie Blackmore, mais je pense que les amateurs de bonne musique vont pas rester bloqués sur ce passé grandiose mais passé, et sauront apprécier ce qu'est Deep Purple en 2020, c'est-à-dire un groupe qui a plus de 50 ans de carrière mais qui a encore envie d'en découdre, qui a encore envie de faire progresser son univers musical et tout simplement de nous enchanter. La légende de Deep Purple continue à s'écrire avec ce 21e album qui est Whoosh, et d'ailleurs il faut dire que le disque connaît un succès commercial plutôt faramineux. En voici d'ailleurs un extrait avec un morceau qui s'appelle Throw My Bones, c'est le titre qui ouvre le disque. Voici tout de suite Deep Purple dans Check Me Load. I don't know what lies ahead. It's all a mystery, man. I heard it said, you do your thing, you do your best. I take a guess what happened next. All I got is what I need, and that's enough as far as I can see. Why should I walk into the great unknown? Purple sur Bike FM, vous venez d'écouter un extrait de l'album Whoosh, sorti le 7 août. Le titre que l'on vient d'écouter, c'est Throw My Bones, c'est le titre d'ouverture de cet album que je vous conseille. Alors, que je conseille à ceux qui ont aimé Deep Purple tout au long de leur carrière, que je conseille aussi à ceux qui connaissent pas Deep Purple. C'est une drôle de façon de commencer par ce dernier album, mais pourquoi pas. Mais alors par contre, si vous commencez par Whoosh, allez écouter ce que le groupe faisait dans les années 70, parce que Deep Purple, c'est un groupe mythique, géant, qui a quand même des titres qui sont tellement intemporel et tellement réussi que c'est vraiment voilà, un groupe à connaître absolument quand on aime le rock, quand on aime le hard rock, quand on aime le métal. Le même jour, grosse sortie également d'un groupe, alors beaucoup plus jeune, un groupe des années 2000. Le groupe Avatar faisait également son retour avec un nouvel album intitulé Hunter Gatherer. Avatar, c'est un groupe suédois qui nous vient de Göteborg, qui a été créé en 2001 par le chanteur-leader Johannes Ekerström, qui d'ailleurs endosse le personnage d'une espèce de clown maléfique qui se situe un peu entre Alice Cooper et le Joker. Il n'est pas tout seul à avoir créé le groupe, il y avait le batteur John Alfredson également avec lui. Et après des débuts un petit peu compliqués, bah justement au niveau du line-up, le groupe Avatar va finalement se stabiliser en 2003. Et depuis, le groupe n'a subi qu'un seul changement avec le remplacement en 2012 d'un des guitaristes, si je dis pas de bêtises. Alors pour ce qui est du style d'Avatar, là on est sur un mélange de death mélodique, de groove metal, de hard rock, de heavy et de metal alternatif. Les influences du groupe sont très très larges, hein. Ça va de In Flames aux Beatles en passant par Dark Tranquility, Marilyn Manson, Ministry, Strapping Young Lad, Iron Maiden, Rammstein, Halloween, Ozzy Osbourne, Thin Lizzy et même Beethoven. Donc vous voyez que le combo ratisse très très large et ça se ressent à travers leurs albums. Le premier album du groupe, c'était Sucked of No Tomorrow en 2006. C'est avec cet album-là que le monde les a découverts. Mais pour ce qui est de la France, parce que nous on se distingue toujours un petit peu des autres, c'est à partir de Hail the Apocalypse, leur cinquième album paru en 2014, qu'on va réellement voilà, s'intéresser à Avatar, grâce notamment à leur passage des plus remarqués quelques mois plus tôt dans notre beau pays, où ils avaient assuré la première partie de Five Finger Death Punch et de Avenged Sevenfold. Et puis donc, en 2016, Avatar avait frappé très très fort en sortant le concept album Feather and Flesh, qui avait largement été plébiscité par les médias et qui avait été suivi par Avatar Country en 2018, qui était lui aussi un concept album qui nous entraînait cette fois encore dans un univers totalement déjanté, un univers qui avec lequel le groupe n'hésitait pas à repousser encore d'un cran ses limites créatives, en faisant par exemple cohabiter AC/DC à la musique country sur un des morceaux. Donc c'est pour vous donner une vague idée, hein, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller découvrir les albums d'Avatar, parce que y a franchement un sacré univers, quoi. Et justement, cet univers jusqu'à présent, il était quand même très 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 théâtral, très coloré. Eh bien, c'en est terminé avec Hunter Gatherer, qui, malgré la touche de rose fluo qui illumine le centre de son artwork, eh bien, nous plonge au cœur d'une dystopie sombre et glaçante, digne de la série Black Mirror. Alors Black Mirror, pour ceux qui connaissent pas, c'est cette série qui nous parle un petit peu de la dérive des nouvelles technologies, hein. C'est très flippant comme série, si vous avez déjà vu. Vous savez de quoi je parle, les autres, allez jeter un coup d'œil, mais des fois on se sent même très mal à l'aise devant cette série, parce que c'est un peu ce qu'on retrouve, hein, dans Hunter Gatherer. Alors c'est pas véritablement un concept album, mais ça suit quand même un fil rouge qui évoque tout au long des 10 morceaux cette situation et l'évolution aussi de l'homme face à ces nouvelles technologies, face à l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est vaste, qui pose énormément de questions et qui permet à Avatar encore une fois de laisser exploser sa créativité et son sens du cocktail musical explosif. Hunter Gatherer, en effet, c'est un album qui est totalement enthousiasmant, notamment par cet aspect multifacette qui fait tour à tour référence à Faith No More, à System of a Down, Type O Negative, Slipknot, qui fait même un petit clin d'œil à nos compatriotes de Gojira, hein, Cocorico. Le tout produit de façon brillante par l'excellent Jay Ruston, qui sublime totalement l'ensemble. On va tout de suite écouter un extrait de cette nouvelle prod signée Avatar avec le puissant Colossus, qui, je pense, devrait quand même pas mal plaire s'il y a des fans de Rammstein qui nous écoutent. Voici tout de suite Avatar. We'll be right back. C'était Avatar à l'instant avec le titre Colossus, extrait de Hunter Gatherer, leur nouvel album paru le 7 août, qui est une pure réussite. Rien que ce morceau, c'est une pure réussite. Alors que ce soit le son, mais il y a aussi un clip vidéo qui est vraiment très très beau, que je vous conseille d'aller voir. Flippant mais beau. Et là, le morceau qu'on vient d'écouter, c'est vrai que dedans, il y a beaucoup beaucoup d'influence. Alors il y a une rythmique un peu martiale à la Rammstein. On a un moment, un chant un peu à la Typo Négative, et puis sur la fin on est plus sur un chant un peu à la Ozzy Osbourne. Et voilà, c'est tout le temps ça Avatar, c'est des cocktails de différentes esthétiques métal, et ça j'aime beaucoup, surtout que sur cet album là vraiment c'est extrêmement bien réussi. Donc un album que je vous conseille, je répète le titre du disque, Hunter Gatherer, et c'est disponible depuis un mois maintenant. Le 31 juillet, une sortie assez improbable est arrivée, on ne l'attendait plus, mais elle est enfin là. Le groupe Alcatraz faisait son grand retour dans les bacs. Alors Alcatraz, c'est une histoire qui dure depuis les années 80, mais qui a subi une très très grosse coupure, et on est très content de retrouver ce groupe qui était plein de potentiel et qui a explosé presque en plein vol alors qu'il était promis à une brillante carrière. Et donc le 31 juillet sortait Born Innocent, il me semble que c'est le quatrième album du groupe. Un groupe qui est originaire de Los Angeles et qui a été fondé en 1983, donc il y a pas 40 ans encore, mais pas si loin. Il a été créé sous l'impulsion du chanteur Graham Bonnet, dont la voix d'ailleurs n'est certaines fois pas sans rappeler un certain Bruce Dickinson. Et donc le groupe Alcatraz va compter également parmi ses membres d'origine un guitariste virtuose qui s'appelle Yngwie Malmsteen, que on va découvrir après en solo, hein, qui fait partie de cette vague de guitar héros des années 80, qui a profondément marqué le monde de la guitare. Alors le problème de Malmsteen, c'est que c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, et certainement que il était très à l'étroit au sein d'Alcatraz, si bien que dès 84, hein, il va laisser sa place à Steve Vai, qui est un autre guitar héros, pour lui débuter donc cette fameuse carrière solo. Alors Steve Vai, c'est un autre personnage, c'est un autre style de guitare, c'est aussi un très grand guitariste, il fait aussi partie de cette vague de guitar héros qui va ensuite continuer en solo, mais voilà, on sort du baroque avec Steve Vai pour des sons un peu plus modernes, presque des fois expérimentaux. Deux guitaristes, deux façons de jouer, mais en tout cas deux guitaristes qui ont marqué la carrière d'Alcatraz. Alors de cette époque à l'heure actuelle, il y a encore trois membres d'origine quand même, ce qui est pas mal. Donc on a toujours Graham Bonnet, hein, qui est toujours au micro bien sûr, il y a toujours aussi le clavier Jimmy Waldo et le bassiste Gary Shee, même si ce dernier, au fil du temps, il a fait quand même plusieurs allers-retours. Et puis au sein d'Alcatraz, on compte également deux petits nouveaux. Alors un guitariste extrêmement talentueux, tout jeune, qui s'appelle Joe Stump, qui tient un peu ce nouvel album au niveau de la composition et qui a fait vraiment un excellent travail. Et puis il y a un nouveau batteur aussi qui s'appelle Mark Benkeche. Alcatraz, c'est donc du heavy metal pur jus, celui qu'on savait si bien faire dans les années 80, qu'on sait toujours faire d'ailleurs, mais bon, à l'époque, voilà, c'était encore en pleine explosion. C'est un groupe qui va sortir un premier album qui s'appelle No Parole from Rock'n'Roll, donc son année de création, 83. C'est un album qui est très influencé par le son de Rainbow. Rainbow dans lequel a sévi Graham Bonnet quelques années auparavant. Alors Rainbow, on revient à Deep Purple un peu, parce que Rainbow, c'est le groupe que Ritchie Blackmore a fondé après Deep Purple. Et il faut savoir que Ritchie Blackmore, c'est aussi un des héros de Yngwie Malmsteen, qui était guitariste d'Alcatraz à l'époque. Donc vous voyez, tout se recoupe un petit peu. Le disque va connaître un très large engouement aux États-Unis, où il va être largement soutenu par une toute jeune chaîne de télé qui s'appelle MTV. Et puis au Japon, il va devenir très rapidement disque d'or. Les Japonais sont des fans absolus de heavy metal, donc là-bas ça fait un carton. Et après un premier live qui part en 84, Alcatraz va enchaîner très rapidement avec un deuxième album qui s'appelle Disturbing the Peace, qui arrive en 85, et puis un troisième qui s'appelle Dangerous Games, qui arrive en 86. Mais ce dernier va être un échec commercial, qui, ajouté à la valse quand même incessante des guitaristes au sein du groupe, va aboutir à sa séparation en 87. Alcatraz va donc devenir un souvenir de la scène heavy des années 80, jusqu'à ce qu'un best-of arrive dans les bacs en 98. Un best-of qui a peut-être inspiré les programmateurs du jeu vidéo GTA Vice City, qui arrive en 2002, puisqu'on y entend le morceau God Blessed Video, qui est un classique du groupe Alcatraz. Alors, malgré tout, à ce moment-là, on pensait que le combo était mort et enterré, mais pourtant, en 2006, eh bien, Graham Bonnet va ressusciter la créature, une résurrection qui va quand même prendre pas mal d'années, puisque ce sera cette année, cet été 2020, qu'on pourra enfin découvrir cette nouvelle production signée Alcatraz. Une nouvelle production qui s'intitule Born Innocent, qui est arrivée par cette brûlante journée du 31 juillet, souvenez-vous, c'était la canicule en France, et qui renoue eh bien, totalement avec l'esprit d'origine du combo, avec des compos qui laissent la part belle aux guitares, hein, dont les parties sont assez exceptionnelles. Je trouve que le nouveau guitariste Joe Stump est vraiment impérial, mais si les guitares sont belles, elles sont toujours au service de la musique et de Graham Bonnet, qui, tout comme les membres de Deep Purple, est plus si jeune que ça, hein, puisqu'il a 72 ans même, et il brille toujours de sa voix puissante et rageuse. C'est des héros, hein, ces chanteurs, moi, je trouve. Born Innocent, c'est un disque qui est intense, riche, varié, qui est certainement le plus digne successeur de leur excellent Disturbing the Peace, qui était paru en 85. Et puis, notons au passage que, pour son grand retour, Graham Bonnet a invité quelques amis guitaristes prestigieux à apporter leur petite collaboration. On retrouve, par exemple, Chris Impellitteri, on retrouve le virtuose japonais Nozomu Wakai, on retrouve Steve Vai aussi, et puis le regretté Bob Kulick, qui est décédé il y a très peu de temps, en mai dernier, donc ça permet également de lui rendre un petit hommage. Voici donc un extrait de ce jubilatoire Born Innocent, avec un morceau intitulé Polar Bear. On écoute Alcatraz sur Bike FM. Yeah. Alcatraz à l'instant sur Bac FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter un extrait de leur nouvel album qui s'appelle Born Innocent, un album qu'on attendait maintenant depuis les années 80, donc on est très content en plus que l'album soit une telle réussite. Bravo à Graham Bonnet et à son équipe, et notamment bravo au nouveau guitariste Joe Stump qui est absolument excellent. Je vous conseille cet album que je trouve incontournable à tout amateur de heavy metal, ça c'est à rajouter dans vos petites playlists, absolument. Vous avez entendu, hein, si vous aimez par exemple la musique de Malmsteen, ça c'est un album qui devrait vous plaire. Et puis profitez-en pour aller réécouter les deux premiers albums d'Alcatraz, qui pour vous rendre compte un peu du potentiel qu'a pu avoir un tel groupe à l'époque, et à quel point c'est dommage que ça se soit arrêté finalement de façon aussi bête. Que va-t-on écouter maintenant? Bon, on va écouter un petit peu de hard rock bluesy, du hard rock revival, vous savez, comme on dit, avec un groupe qui est assez prometteur, un jeune groupe qui est assez prometteur depuis quelques années, mais qui avait un peu calé en route avec son dernier album, qui était un album réussi, mais qui n'avait pas eu assez de potentiel pour les faire passer à l'étage supérieur. Ce groupe, c'est Blue Pills, et Blue Pills a sorti le 21 août un nouvel album intitulé Holy Moly. Alors, Blue Pills, c'est un groupe suédois qui est originaire d'Oresbro, qui est né en 2011, mais qui est pas né en Suède. C'est ça un petit peu la petite feinte, c'est que le groupe est né aux États-Unis de la rencontre d'une chanteuse suédoise qui s'appelle Elin Larsson et de deux demi-frères américains, donc le bassiste Zach Anderson et le batteur Corey Berry. Quelques mois plus tard, alors que le jeune trio va tourner en Europe, ils vont rencontrer un guitariste français qui s'appelle Dorian Sorio et qui va rejoindre les rangs du groupe, qui sera à partir de ce moment-là au complet. Alors c'est un line-up qui a beaucoup évolué, puisque à l'heure actuelle on a toujours Elin Larsson, hein, bien sûr, au chant, qui est présente, et on a toujours Zach Anderson aussi qui par contre lui il a changé d'instrument, puisque je vous ai dit, hein, il était bassiste, et sa basse il l'a récemment troqué pour récupérer le poste de guitariste qui a été laissé vacant par Dorian Sorio, hein, qui a quitté le groupe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Zach Anderson il assure aussi bien à la guitare qu'à la basse, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous allez me dire, mais qui a récupéré la basse? Eh bien, c'est un petit nouveau qui s'appelle Christopher Schander. Et puis, à la batterie, on retrouve André Gvanstrom. Donc, Blue Pills, je l'ai dit un petit peu, hein, c'est du hard rock qu'on appelle du hard rock revival. D'ailleurs, c'est un groupe qui va vite devenir une des formations les plus intéressantes et les plus applaudies de cette fameuse scène revival. Le groupe a en effet su créer une ambiance rock assez unique, où l'extraordinaire voix d'Elin Larsson, eh bien, s'harmonise à la perfection avec des guitares venues d'ailleurs et une section rythmique des plus groovy. Pourtant, au départ, l'idée, elle paraît toute simple, hein. Il s'agit de combiner du soul, enfin de la soul, du blues, du rock'n'roll teigneux, du heavy old school, mais voilà, il fallait encore que la magie opère, et c'est ce qu'a su faire Blue Pills. D'ailleurs, on va le constater, ça, dès la sortie d'un premier album éponyme qui va arriver en 2014, qui va faire du groupe un véritable phénomène. Ils vont d'ailleurs effectuer une tournée triomphale en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et là, notamment, ils vont être spécialement invités par Kirk Hammett, donc de Metallica, au Kirk Hammett's Fear Festival. Alors ça, quand on est invité par Kirk Hammett, je crois qu'il y a moyen de se la péter un peu. Une tournée qui va d'ailleurs aboutir à un CD-DVD qui va sortir en 2015, hein, ça va être le premier live du groupe, il y en aura un petit peu après. Et donc, après avoir prouvé avec ce premier opus qu'il était possible de s'inspirer du passé tout en apportant une touche moderne, personnelle et efficace, eh bien, les Blue Pills se devaient de concrétiser tous ces espoirs fondés en deux. C'est ce qu'ils vont tenter de faire avec un deuxième album qui s'appelle Lady in Gold, qui va arriver en 2016, alors sur lequel ils vont invoquer cette fois l'âme de Janis Joplin pour le chant, et puis de Black Sabbath, Led Zepp, Free, Cream ou Hendrix pour le son. Mais la production va être un petit peu trop académique et le rendu un peu trop soul, qui va un peu décevoir finalement, qui va pas permettre à Blue Pills de transformer l'essai, même si l'album est loin d'être mauvais, hein, c'est un album de très belle facture. Mais voilà, les gens s'attendaient à quelque chose de plus hard rock, quelque chose de plus teigneux, et voilà, il y a ce côté soul qui est trop omniprésent. Mais Blue Pill, c'est quand même loin d'avoir dit son dernier mot, et Holy Molly, qui est arrivé fin août, eh bien, devrait enfin lui permettre de le franchir, ce nouveau cap, grâce à un son plus agressif, qui transpire plus l'essence blues, qui a aussi une production plus brute, plus sale. Alors attention, sans être crade, hein, là c'est de la saleté presque noble que j'ai envie de vous dire. Une saleté qui donne à ces nouveaux morceaux un petit peu plus de mordant. Et puis Blue Pill s'en a également profité pour se débarrasser un petit peu de quelques fantômes quand même omniprésents sur l'album précédent, ce qui lui permet de commencer à construire sa vraie propre identité. Avec Holy Molly, nos jeunes prodiges sont certainement enfin sur cette fameuse route de la gloire. Enfin, ça, l'avenir nous le dira, mais bon, c'est bien parti quand même. Voici tout de suite un extrait de ce Holy Molly avec un morceau qui s'appelle Low Road, et c'est tout de suite sur Bike FM. Voici Blue Pills. Pour vous tout de suite, c'était Blue Pills, un extrait de l'album Holy Molly paru le 21 août. On vient d'écouter le titre Low Road, extrait de ce troisième album du combo fort potentiel qui avait pas réussi à transformer l'essai avec son deuxième album qui était bien mais auquel il manquait quelque chose, et là qui pourrait arriver vraiment à tout faire exploser. En tout cas, moi, Blue Pills, c'est un groupe que j'aimerais bien voir sur scène. En live, ça doit vraiment envoyer sévère. Surtout que, voilà, hein, la jeune fille, là, allez voir les clips, elle est pas épaisse et elle dégage une aura et une puissance assez exceptionnelle. On va se refaire un petit coup de trash, si vous le voulez bien, pour terminer cette sélection de nouveautés pour cette émission du 4 septembre. Et on va revenir sur un album qui est paru le 7 août. C'est le nouvel album de Onslaught. Alors, on est encore avec un groupe vétéran, puisque c'est un groupe des années 80, là, encore, qui nous revient. L'album s'appelle Generation Antichrist et il est plutôt pas mal, donc il fallait absolument qu'on en parle aujourd'hui. Donc, Onslaught, c'est un groupe qui nous vient de Bristol, en Angleterre, donc, bien évidemment, qui a été créé en 82 sous l'impulsion notamment du guitariste Nigel Rocket, qui est le seul membre d'origine encore présent à partir de maintenant. Alors, le groupe Onslaught va sévir d'abord jusqu'au début des années 90 avant de se séparer, et puis va se reformer en 2011. Et à l'heure actuelle, donc, outre Nigel Rocket, il se compose de Wayne Dorman à la guitare, de Jeff Williams à la basse, de James Perry à la batterie, et d'un petit nouveau au chant qui est arrivé vraiment tout récemment, qui s'appelle Dave Garnett, et lui, on va en reparler dans quelques instants. Donc, Onslaught, c'est du thrash metal. Alors, même si à ses débuts, les influences principales du groupe, elles venaient plutôt du punk, du hardcore, puisque c'était plutôt des groupes comme The Exploited ou Discharge, hein, qui influençaient Onslaught, qui va ensuite évoluer vers des sonorités plus heavy thrash. Et d'ailleurs, à ce jour, Onslaught est considéré comme faisant partie des pionniers de la scène thrash metal britannique. Alors, qui compte pas des milliers de groupes, hein, mais voilà, c'est quand même une des valeurs de la scène thrash en Angleterre. Au milieu des années 80, Onslaught va sortir deux albums marquants. Il va y avoir Power From Hell en 85 et The Force en 86. Malheureusement, bah là, tout comme Alcatraz, leur troisième album qui s'appelle In Search of Sanity, qui arrive en 89, qu'aurait dû être finalement le disque de la consécration, va, malgré une promo très importante, recevoir un accueil extrêmement mitigé de la part des fans, eh ben, qui vont considérer que le groupe a perdu beaucoup de son agressivité. Cet échec va malheureusement signer la fin de Onslaught, qui va splitter en 91, mais qui va se reformer en 2005. C'est d'ailleurs une partie des anciens membres, hein, qui revient. Et le groupe va vite reprendre le chemin des studios pour sortir en 2007 Killing Peace. Alors, qui sera plutôt bien reçu, qui va permettre aux Britanniques de signer avec AFM Records, sur lequel sortira Sons of Violence en 2011, et puis l'excellent Six en 2013, qui lui marquait vraiment le grand retour d'Onslaught sur le devant de la scène trash. Il s'agira de l'ultime album en compagnie du chanteur historique Psykiller, puisque ce dernier a en effet eu la très mauvaise idée de lâcher ses petits camarades juste avant la mise en boîte de Generation Antichrist, et c'est donc quasiment au pied levé que Dave Garnett, le petit nouveau, a pris la relève en avril dernier pour enregistrer cet album paru en août. Hein. Donc vous voyez, le timing a été assez court. Garnett, qui est donc finalement arrivé un petit peu en sauveur et qui, comme on le découvre sur ce nouvel opus, assure comme une bête dans son nouveau rôle de distributeur du percut sonore, car ce nouvel opus qui est Generation Antichrist est constitué de bonnes mandales balancées dans la face et de déflagrations bien brutales. Nos vétérans ont rien perdu de leur rage, de leur hargne, et décidément, hein, bah, ceux qui ont forgé le trash à l'époque des années 80 ont encore beaucoup de leçons à nous donner. C'en est la deuxième preuve aujourd'hui. Voici donc un extrait de ce nouvel album d'Onslaught avec le morceau Bow Down to the Clown, qui moi m'a fait quelquefois penser à Slipknot. Vous allez vous faire votre petite idée. En tout cas, voici tout de suite Onslaught. To a world of thousands. Onslaught sur Back FM dans l'émission Check Me Load, un extrait de l'album Generation Antichrist paru le 7 août, donc groupe de thrash metal qui nous vient d'Angleterre et qui est de retour avec un tout nouveau chanteur qui s'appelle Dave Garnett en remplacement donc de Cy Killer qui était jusqu'à présent le chanteur de la formation. Pour ceux donc Bow Down to the Clowns que l'on vient d'écouter dans cette émission. Allez, on s'arrête là pour cette sélection d'albums parus cet été. On en retrouvera quelques-uns la semaine prochaine et puis on va passer à la traditionnelle rubrique qui clôture l'émission sur un air de reprise, la rubrique Sort et Cover, dans laquelle eh bien je vais vous proposer pour cette première de la nouvelle saison de Check Me Load une nouveauté, puisqu'on va écouter un titre paru le 14 août qui a d'ailleurs connu son petit succès hein, là en fin d'été, notamment chez nos amis anglo-saxons. Il s'agit de la célèbre chanson The Devil Went Down to Georgia, reprise dans une version métal 2.0 par les Canadiens de Nickelback. Alors Nickelback, tout le monde connaît grâce à leur tube Oh You Remind Me, qui est un classique du rock depuis sa sortie en 2001, qu'on entend encore régulièrement sur Back FM d'ailleurs. Il s'agit d'un groupe qui est originaire d'Alberta, qui a été fondé en 95 par trois frères, les frères Kroger et Chad, le plus jeune jeune de la bande et d'ailleurs le leader du combo dans lequel il occupe le poste à la fois de chanteur et de guitariste. Alors considéré comme un groupe de rock metal alternatif, Nickelback propose un son qui est très influencé par le hard rock et par le grunge. Depuis ses débuts, il a sorti 9 albums qui ont tous connu un très très gros succès commercial, notamment en Amérique du Nord, et ce depuis la sortie de Silver Side Up en 2001, qui demeure à ce jour l'album emblématique de sa discographie. C'est sur celui-ci qu'on trouve la fameuse chanson Oh You Remind Me. Concernant maintenant la chanson The Devil Went Down to Georgia, alors il s'agit à l'origine d'un titre du Charlie Daniels Band, l'orchestre de bluegrass et de country mené par Charlie Daniels, qui est d'ailleurs décédé tout récemment, le 6 juillet dernier, et c'est en hommage à ce grand musicien américain que Nickelback a enregistré cette reprise de The Devil Went Down to Georgia, dont la version originale, donc celle de Charlie Daniels Band, est parue il y a 41 ans, le 20 avril 1979, c'était sur leur album Million Mile Reflections, pour ensuite paraître un mois plus tard en 45 tours, le 21 mai, toujours de l'année 79. Alors il s'agit de la chanson la plus connue du Charlie Daniels Band, et elle a une particularité, c'est d'avoir des paroles qui sont presque plus parlées que chantées, presque sur les couplets, presque un peu comme, je vais exagérer, mais presque comme du rap. C'est scandé, si vous voulez, comme puisqu'en fait on y suit une histoire, on suit les mésaventures de Johnny, qui est un jeune violoniste extrêmement talentueux, qui va croiser le chemin du diable. Alors le diable, lui, là, il écume les routes de Géorgie à la recherche d'âmes à damner. Mais comme les temps sont durs pour le malin à ce moment-là, eh bien, il va proposer à Johnny de l'affronter dans une battle infernale de fiddle. Le fiddle, c'est ce petit violon américain qu'on retrouve beaucoup dans la musique country. Alors le deal est simple, si Johnny gagne, il va remporter un fiddle en or, mais s'il perd, eh bien son âme appartiendra au diable. Hein. Ça c'est toujours le compliqué de faire un deal avec le diable. C'est finalement Johnny qui va l'emporter et de loin sur Satan. Il va donc gagner son fameux violon d'or, hein, puisque le diable va respecter son pacte. Mais Johnny va quand même être assez effronté, puisque il va quand même mettre Satan au défi d'un nouvel affrontement. Alors la suite on ne l'a pas, mais bon, en tout cas la chanson c'est devenu un tel classique qu'elle a beaucoup été entendue et reprise. Par exemple, on l'entend dans un épisode des Muppets, on l'entend dans un épisode de la série animée Futurama, et puis côté reprise, il y a bien évidemment une parodie signée Weird Al Yankovic, il y a la cover aussi du guitariste Steve Huimet, et puis il y a l'excellente et délirante version du groupe Primus, qu'il faudra absolument que je diffuse dans cette rubrique un de ces quatre, tellement elle est aussi énorme. Et puis désormais, il y a cette version de Nickelback qui n'est pas dénuée d'intérêt, puisque donc elle est parue en single il y a peu là, mais je la trouve extrêmement réussie dans cette relecture très qui est très heavy metal, qui est très péchu. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que les passages de fiddle de la chanson originale, elles sont remplacées par une guitare électrique qui est accordée un ton en dessous. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Nickelback, qui interprète le morceau en featuring avec un guitariste canadien qui s'appelle Dave Martone, s'est également autorisé à faire quelques petites modifications dans les paroles. Alors rien d'extrêmement important, mais voilà, bon, ils ont juste apporté leur petite touche et c'est très bien. Il est d'ailleurs grand temps de la découvrir, hein, cette version de The Devil Went Down to Georgia, donc du Charlie Daniels Band, mais revue et corrigée par Nickelback. Quant à nous, eh ben, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles aventures métal. En attendant, restez rock'n'roll. Salut à tous!
Across this young man picking a guitar and playing it hot. The devil jumped up on a hickory stump, said, boy, let me tell you what. Well, I guess you didn't know it, but I'm a guitar player too. And if you care to take this dare, I'll make a bet with you. You're a pretty damn good strummer, boy, but give the devil his due. I'll bet a guitar of gold against your soul that says I'm better than you. But the boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, you're gonna regret I'm the best that's ever been. We'll be right back. just like this. Said, well, you're pretty good, old son. Well, sit your old ass in that chair right there and let me show you how the fuck it's done. Bowed his head because he knew that he'd been beat, and he laid that gold guitar down on the ground at Johnny's feet. And Johnny said, "Devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best that's ever been."